Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à notre dernière étude concernant le vainqueur. C'est l'étude numéro 13. Nous allons essayer de comprendre, et ceci par la parole de Dieu, comment un chrétien peut-il être rempli du Saint-Esprit? Tout d'abord, nous devons savoir qu'il existe des expériences différentes dans la rencontre avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. De même, on peut être rempli du Saint-Esprit selon des expériences différentes. Par exemple, bien qu'un homme réponde à l'appel de Christ dans une réunion d'évangélisation et qu'un autre le fasse à genoux dans sa chambre, tous les deux sont nés de nouveau et transformés par la puissance de Christ. Bien d'autres circonstances et expériences amènent des hommes sincères à la connaissance du Sauveur et ils deviennent de nouvelles créatures en Christ, et ceci qu'ils soient catholiques, protestants ou évangéliques. Et de la même manière, les chrétiens sincères sont remplis du Saint-Esprit. On doit comprendre que être rempli du Saint-Esprit ne signifie pas qu'on en reçoive une plus grande part, mais que nous lui donnons davantage de nous-mêmes. En soumettant nos vies à l'autorité du Saint-Esprit, nous sommes remplis de sa présence et il a une plus grande liberté d'action dans nos vies pour mieux glorifier Jésus-Christ. Dieu est trop grand pour pouvoir entrer dans un moule fait de main d'homme. Il y a certaines lois spirituelles que l'on ne peut violer. En référence des paroles de Christ à ses disciples, puisque le Saint-Esprit habite déjà dans chaque chrétien, n'est-ce pas? Il n'est donc plus nécessaire d'attendre dans Jérusalem, mais de se préparer à être rempli de sa puissance. Le Saint-Esprit nous remplit de cette puissance dès le moment où nous nous donnons à lui, décidés à nous confier en Dieu pour faire sa volonté. Un homme peut participer à une retraite spirituelle et être rempli du Saint-Esprit. Un autre peut recevoir cette plénitude en marchant dans une rue fréquentée d'une grande ville. L'évangéliste est le docteur Moody. Il a fait cette expérience-là. Il est même possible d'être rempli du Saint-Esprit et de savoir que quelque chose de merveilleux s'est passé à condition d'avoir un réel désir de confier sa volonté au Seigneur Jésus-Christ, sans savoir à quel moment précis cela s'est passé. Ce fut également mon expérience. Je ne veux pas dire que les étapes que je vais énoncer représente la seule manière d'être rempli du Saint-Esprit. Cette marche spirituelle vous est offerte tout d'abord parce qu'elle est conforme aux Saintes Écritures et deuxièmement parce que je sais par expérience qu'elle est réalisable. Chers amis, voulez-vous être rempli du Saint-Esprit? Quelles sont vos motivations? Recherchez-vous quelques expériences extatiques que, on peut dire, que pour vous-même? Ou désirez-vous sincèrement servir le Seigneur, et ceci avec plus de puissance et d'efficacité, ce qui est tout autre chose? Voulez-vous de tout votre cœur aider les autres à trouver le Sauveur? Voici les étapes spirituelles que je vous demande de considérer dans vos prières. A. Nous avons reçu un commandement qui dit « Recevez la plénitude du Saint-Esprit ». Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Éphésiens chapitre 5 verset 18. C'est un ordre de Dieu. Pensez-vous qu'il demanderait quelque chose que vous soyez incapable d'expérimenter? B. Nous recevons une puissance quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Souvenez-vous, nous sommes remplis du Saint-Esprit afin de recevoir la puissance dans notre vie, et ceci pour témoigner pour Christ. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Si vous n'avez aucun désir d'être témoin de Christ, ou si vous n'avez pas de puissance dans le témoignage, c'est simplement que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit devrait-il venir? Eh bien, pour que les disciples, vous et moi, recevions une puissance. Pourquoi avons-nous besoin de puissance? Eh bien, pour être témoin de Christ, ou cela d'abord, la même où nous sommes, voyez-vous, là où nous sommes, dans notre Jérusalem, c'est là que nous allons recevoir tout ce qu'il nous faut pour mieux servir le Seigneur. Donc, pouvez-vous dire sincèrement que c'est là le motif de votre désir d'être rempli du Saint-Esprit? C'est, si nous avons soif, nous pouvons venir à Christ et boire. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus-Christ se tenait debout et il s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, selon ce que dit l'Écriture sainte. » Jésus-Christ dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit Saint n'était pas encore donné, parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. Saint Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Donc, nous pouvons dire heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 6. Voyez-vous, quand un chrétien est prêt à répondre à l'appel de notre Sauveur, qui dit ceci, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il est donc prêt à soumettre sa volonté à celle de Dieu. Ou si cette troisième étape comprend-elle un abandon complet de votre volonté à celle de Dieu? Vous êtes arrivé au point où vous vous réjouissez de connaître et de faire sa volonté, et ceci parce que vous savez que Dieu vous aime, qu'il est fidèle et que sa volonté est la meilleure. Jusqu'à ce moment, le Saint-Esprit était en visite chez vous, car il était venu lors de votre conversion. Parfois, il était enfermé dans un placard pendant que vous utilisiez le reste de la maison pour votre bon plaisir. Mais maintenant, vous désirez qu'il soit plus qu'un invité. En fait, vous voulez lui remettre les papiers officiels de la maison de votre vie ainsi que les clés de chaque pièce. Vous invitez le Saint-Esprit dans la bibliothèque de votre esprit, la seule, on peut dire, qui est la salle à manger de vos appétits, qui est le salon de votre vie sociale et à être le porte-parole de vos relations. Vous l'invitez donc dans les petites pièces reculées où vous avez mené autrefois des activités secrètes et parfois même honteuses. Tout cela, c'est du passé. Maintenant, il est le maître. L'exhortation de Romains chapitre 12, versets 1 à 2 devient très claire. Elle prend un sens particulier. Il est dit « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez à présent que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Vous n'êtes plus à vous-même, mais vous avez été racheté par le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui sont maintenant à Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Donc maintenant, de tout votre cœur, vous voulez chercher premièrement le royaume de Dieu, selon Saint Matthieu chapitre 6, verset 22, non, Saint Matthieu chapitre 6, verset 33. J'allais me tromper. Maintenant, vous voulez chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, car vous êtes mort en Christ, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Donc, maintenant, vous pouvez dire avec une joie inexprimable, comme l'a fait saint Paul, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates chapitre 2, verset 20. « Vous avez échangé votre vie contre celle de Christ. Si vous pouvez dire ces choses-là, et ceci de tout votre cœur, alors vous êtes prêt pour la quatrième étape. Toutefois, auparavant, je dois attirer votre attention sur les paroles de notre Sauveur dans Saint Jean, chapitre 15, versets 18 et 20. Car là, il est dit ceci. Si le monde vous hait, donc vous haït, Eh bien, sachez qu'il m'a haï avant vous. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, eh bien, croyez-moi, ils vous persécuteront aussi. Donc, la vie chrétienne remplie du Saint-Esprit n'est pas une vie très facile, mais c'est une vie d'aventure qui atteint ses objectifs d'une manière telle qu'aucune autre vie ne pourrait le faire. Je pense à la vie sous cet angle-là, chrétien ou non, eh bien, nous allons affronter, croyez-moi, toutes sortes de problèmes. Chrétien ou non, nous mourrons un jour. Et si je veux être chrétien, je veux tout ce que Dieu veut pour moi. Si je dois souffrir et mourir un jour, pourquoi ne pas souffrir et mourir pour la plus belle cause, c'est-à-dire pour le Seigneur Jésus-Christ et son saint évangile? Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous entendu parler d'un enfant de Dieu qui, souffrant pour la cause de Christ, exprime des regrets? Moi, jamais. Je n'ai entendu que des louanges, de l'adoration, de la reconnaissance envers Dieu pour le privilège de servir Jésus-Christ, quelles que soient les difficultés. Et d'autre part, j'ai entendu beaucoup de chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ à la fin de leur vie et de dire combien ils regrettaient de l'avoir fait si tard. Ne cherchez pas à éveiller en vous un esprit de martyr, mais ne vous attendez pas non plus à un chemin bordé de roses. D. Appropriez-vous tout simplement le Saint-Esprit par la foi. Souvenez-vous, si vous êtes chrétien, que vous êtes habité par Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien, un seul Dieu en trois personnes révélé à l'homme. Il vous est donc offert une puissance spirituelle et de nombreuses possibilités qui, il me semble, étaient disponibles jusqu'à ce jour, mais dont vous n'avez pas profité, tout comme un avare qui meurt de faim alors qu'une fortune s'entasse dans des boîtes et des coffres divers, de nombreux chrétiens meurent d'une faim spirituelle. Ils vivent dans la défaite et méprisent la fortune d'en haut qui est pourtant leur héritage en Christ. Éphésiens chapitre 5 verset 18 nous commande ceci. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. De plus, dans la première épître de Saint Jean chapitre 5 verset 14 et 15, là, il nous promet que nous avons auprès de lui, de notre Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Cette promesse, Dieu veut, il veut l'avoir réalisée en nous. En nous appropriant la plénitude du Saint-Esprit par la foi, nous pouvons avoir l'assurance par la parole de Dieu que nous obtiendrons de lui ce que nous désirons. Et cela comprend de nouveau un acte de la volonté. Souvenez-vous que la plénitude du Saint-Esprit, tout comme notre salut, c'est un don de Dieu. Nous ne les obtenons tous les deux d'aucune autre manière. Ils sont donc reçus simplement par la foi. Chers amis, espérez donc de recevoir cette merveilleuse plénitude. Or, voyez-vous, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, de ceux qui le cherchent. Ceci est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Donc je vais vous le répéter. Or, sans la foi, il est évidemment impossible d'être agréable à Dieu. C'est pas moi qui le dis. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit de tout son cœur que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Hébreux 11, verset 6. Avez-vous vraiment ardemment et sincèrement cherché à être rempli du Saint-Esprit? Croyez-vous que Dieu désire pour vous cette plénitude? Croyez-vous qu'il a la puissance de vous remplir du Saint-Esprit? Voyez-vous, je crois que dans Saint Matthieu, chapitre 9, versets 28 et 29, il est écrit ceci, que Jésus s'adresse aux aveugles et il leur demande, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oh oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon quoi ? Selon votre foi. » Et à nouveau, dans Saint Matthieu, au chapitre 13, verset 58, nous apprenons que Jésus-Christ ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. Pourquoi cela ? À cause de leur incrédulité. En conclusion, je désire vous rappeler deux mots clés. Premièrement, le commandement, selon Éphésiens chapitre 5, verset 18, où il est dit que tous les chrétiens ont reçu l'ordre, j'ai dit l'ordre, d'être remplis du Saint-Esprit. Deuxièmement, la promesse. Selon la première épître de Saint Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, Dieu répond toujours quand nous prions selon sa volonté. Chers amis, trouvez un lieu tranquille et réécoutez simplement ce CD et toutes les citations de l'Écriture sainte qu'elle contienne. Vous n'avez pas à attendre le Saint-Esprit, il est déjà là, il attend tout simplement de remplir votre cœur, votre âme, votre esprit. Souvenez-vous, si vous êtes chrétien, qu'il en sera fait ainsi, selon votre foi. Jésus-Christ ne put accomplir des miracles à cause de leur incrédulité. N'oublions jamais cela, pas à cause de leur trop grande foi, mais il récompense tous ceux qui le cherchent sincèrement. Avez-vous sincèrement confié, chers amis, votre vie à Christ et votre volonté à la sienne? Croyez-vous être rempli du Saint-Esprit en ce moment même? Si oui, remerciez-le pour sa présence et pour sa puissance en vous. Remerciez-le par la foi pour la victoire et l'efficacité dans le témoignage. Oui, bénissez Dieu et remerciez-le sans cesse. Éphésiens chapitre 5, verset 20, ainsi que 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Chers amis, il y a deux manières de savoir si vous êtes remplis du Saint-Esprit. D'abord, par les promesses de la parole de Dieu. Ensuite, par l'expérience personnelle. Si vous vous êtes fidèlement soumis à la volonté de Dieu en lui consacrant la vôtre, en suivant les étapes décrites dans ce CD, si vous lui avez demandé de remplir votre vie, alors il l'a fait, car il est fidèle. La Bible nous dit, nous avons auprès de lui, auprès du Seigneur, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Premier épître de Saint Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Alors, je vous le demande, est-ce sa volonté que vous soyez remplis du Saint-Esprit? Éphésiens, chapitre 5, verset 18, nous dit, alors, pouvez-vous maintenant croire qu'il vous a entendu? Pouvez-vous savoir maintenant que vous avez obtenu ce que vous désirez? Eh oui, car la parole de Dieu, elle affirme que nous pouvons le savoir. Donc, sur la base de la parole de Dieu, vous pouvez savoir que vous êtes rempli du Saint-Esprit si vous acceptez les conditions de sa sainte parole. Et les sentiments, hein, que faut-il faire de tous ces sentiments? Voyez-vous, au moment où vous demandez par la foi d'être rempli du Saint-Esprit, votre émotivité est touchée ou ne l'est pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas automatique. Et à cette assurance vient un esprit d'attente vis-à-vis de Dieu pour qu'il les utilise comme jamais auparavant pour amener des âmes à Christ. Il va y avoir une foi plus grande en vous, en Dieu, qui, lui, vous donne une foi plus grande, ainsi que en sa sainte parole. Ainsi aussi dans votre cœur et votre esprit, pour tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Voyez-vous, les résultats sont évidents, car il y aura, croyez-moi, une foi qui devient plus grande, une puissance plus grande, une hardiesse aussi plus grande, et l'efficacité dans le témoignage. Tout n'est pas uniquement concentré ou centré sur le parler en langue. il y a des choses beaucoup plus importantes que vous allez recevoir et réaliser. C'est donc, comme je viens de vous dire, une foi plus grande, une puissance plus grande, une hardiesse plus grande et l'efficacité dans le témoignage. Tout d'abord, voyez-vous, il y a le fait de la promesse de Dieu dans sa sainte parole. Ensuite, il y a l'exercice de la foi dans la fidélité de Dieu et de sa promesse. La foi dans un fait certain affecte les sentiments. Souvenez-vous, le fait, la foi et les sentiments, c'est dans cet ordre-là. Hein? Il y a les faits, il y a la foi, et il y a aussi les sentiments. Mais évitez, chers amis, de mettre l'accent uniquement sur les sentiments. Ne faites jamais cela. Ou simplement sur les émotions. Car les sentiments et les émotions seuls ne sont pas du tout le meilleur critère. Et maintenant, chers amis, maintenant vient le test qui déterminera si vous êtes vraiment remplis du Saint-Esprit. Par exemple, aimez-vous Christ d'un amour nouveau et plus grand qu'auparavant? Êtes-vous préoccupé par ceux qui ne connaissent pas son amour et son pardon? Ça, croyez-moi, vous le comprendrez, est encore plus grand que le parler en langue. Je dis bien, êtes-vous préoccupé par ceux qui ne connaissent pas son amour merveilleux et son pardon? Faites-vous vraiment l'expérience quotidienne d'une foi et d'une liberté, d'une puissance accrue dans le témoignage? Si oui, alors oui, vous êtes remplis du Saint-Esprit et nous pouvons dire ensemble Alléluia. Jésus-Christ commence à manifester sa vie et son amour en vous et au travers de vous. Souvenez-vous, Jésus-Christ a promis que vous recevrez une puissance après la venue du Saint-Esprit sur vous. Vous voudrez être des témoins partout où vous irez, selon Actes chapitre 1, verset 8. Et quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, il est certain que vous avez un amour plus grand, oh oui, pour votre Seigneur, pour votre prochain également, et pour la parole de Dieu. De même, le fruit de l'Esprit Saint que nous énumère le texte de Galates chapitre 5, verset 22, sera plus évident dans votre vie. Toutefois, ne confondons pas le fruit de l'Esprit et les dons de l'Esprit. C'est pour la hardiesse et pour la puissance dans le témoignage que nous sommes remplis du Saint-Esprit. De nombreux chrétiens engagés s'accordent avec le docteur Torrey pour dire ceci. J'ai lu et relu ma Bible très souvent et sur ce sujet, je peux dire, sans la moindre crainte de contradiction, que chaque passage de l'Ancien et du Nouveau Testament sur la plénitude du Saint-Esprit est uni au témoignage et au service pour notre Sauveur. Nous nous hâtons d'ajouter que lorsque le chrétien demeure en Christ dans la plénitude de l'Esprit Saint, le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance et la maîtrise de soi, selon Galates chapitre 5, verset 22, est donc devenue une évidence. Elle est évidente. Et le chrétien s'affermit spirituellement. Le fruit de l'esprit doit être notre objectif pour toute notre vie. Certains chrétiens portent le fruit de l'esprit d'une manière plus évidente que d'autres dans leur vie quotidienne parce qu'ils laissent Christ œuvrer en eux. Plus nous nous reconnaissons morts à nous-mêmes et donnons au Seigneur Jésus-Christ la possibilité de vivre en nous par la puissance du Saint-Esprit, plus le fruit de l'Esprit que nous portons est évident aux yeux de tous. Alors que le développement de la maturation du fruit de l'Esprit s'opère sur une longue période, les dons de l'Esprit Saint sont donnés au moment où l'on devient chrétien. Bien que chaque chrétien rempli du Saint-Esprit reçoive la puissance pour témoigner, chaque chrétien ne reçoit pas le même don. 1 Corinthiens chapitre 12. Certains sont appelés à être apôtres, certains à être prophètes, d'autres à être évangélistes, pasteurs et docteurs de la loi, selon Éphésiens chapitre 4 verset 11. Aussi devons-nous laisser le Seigneur nous diriger dans le service qu'il juge le meilleur pour nous. Surtout, n'essayons pas d'imiter le ministère de quelqu'un d'autre. Soyons patients. N'essayez pas de décider ce que vous devriez faire de votre vie ou de l'endroit où vous aimeriez servir le Christ. Il vous conduira et manifestera sa vie en vous et par vous si vous continuez à étudier fidèlement sa sainte parole et à rester obéissant et prêt à suivre les directives du Saint-Esprit. Nous devrions être remplis du Saint-Esprit à chaque nouvelle occasion de service. L'exhortation d'Éphésiens, chapitre 15, verset 18, à être rempli du Saint-Esprit signifie littéralement ceci. Être rempli constamment de l'Esprit Saint. Les Écritures saintes nous rapportent que l'apôtre Pierre et les disciples furent plusieurs fois continuellement remplis du Saint-Esprit. Le chrétien est totalement dépendant du Saint-Esprit pour toute victoire et toute puissance spirituelle. Aussi, plus il dépend du Seigneur, plus le Saint-Esprit a de liberté pour travailler par son moyen à conduire des âmes à Christ et à l'amener à ce degré de maturité spirituelle en Christ. Voici quelques suggestions pratiques qui vous permettront de vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. Premièrement, méditez cette vérité que Jésus-Christ demeure réellement en vous, que vous êtes mort à vous-même, au péché et à tout désir personnel et égoïste, et que vous êtes vivant seulement pour Dieu, et ceci par Jésus-Christ, selon Romains, chapitre 6, versets 6 à 11. Souvenez-vous que vous avez échangé votre vie de péché. Souvenez-vous que vous avez échangé votre vie de péché et des frustrations et de défaites, et ceci pour la vie victorieuse et pour la vie triomphante de Christ, en qui demeure toute la plénitude de Dieu. Réalisez que celui qui demeure dans votre cœur, c'est celui qui détient toute puissance dans les cieux et sur la terre. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie, qui me fortifie. » Philippiens chapitre 4, verset 13. Vous avez enseveli le vieil Adam, vous avez visité, plutôt, vous avez vissé carrément un couvercle. Le couvercle, on peut dire, du cercueil. Et vous avez enfoui le tout sous 2 mètres de terre. Donc, Jésus-Christ ne veut pas aider votre nature pécheresse à vivre la vie chrétienne, mais il veut surtout utiliser votre corps comme son temple, votre esprit pour ses pensées et votre cœur pour exprimer son amour et sa compassion et vos lèvres pour proclamer ses vérités. Réécoutez ce passage soigneusement. Sa volonté est devenue votre volonté. Et au début, vous aurez peut-être à reconnaître et à confirmer cela bien souvent dans la journée. Vous devrez changer votre façon de voir et de prier. Vous ne direz plus « Que puis-je faire pour Christ ?» ou « Dieu, utilise-moi pour faire ceci ou cela pour toi. » Mais vous direz « Seigneur Jésus-Christ, je suis entièrement à toi, sans réserve. Utilise-moi comme tu le désires. Envoie-moi où tu veux, car je suis mort et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. » Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 3. « Cherchez donc à demeurer en Christ. » Premier épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 6. Que signifie demeurer en Christ? Jésus-Christ a dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Saint Jean, chapitre 15, verset 10. Demeurer, c'est garder ses commandements. Garder ses commandements, c'est obéir. C'est vivre une vie qui ne demande plus d'effort. Comme nous sommes lents à apprendre ce simple fait que la vie décrite dans le Nouveau Testament est une vie exempte, complètement exempte d'effort. La branche n'essaie pas de produire des fruits, pas plus que l'ampoule électrique n'essaye de briller par elle-même. Elles tirent tous les deux leur vie et leur énergie d'une puissance illimitée. Elles utilisent à peine la totalité de leur puissance. Le chrétien a des ressources infiniment plus grandes. Et celui qui a créé la vie des plantes et l'énergie électrique, il vit en nous. Le test le plus certain de la vie chrétienne se résume dans cette question. Est-ce que je fais des efforts ou est-ce que je demeure en lui? Si je fais des efforts, je ne suis pas encore un canal suffisamment dégagé par lequel la vie de Christ peut couler. Donc, méditez en particulier les passages suivants des Saintes Écritures et notez-les soigneusement. Par exemple, Saint Jean chapitre 4, chapitre 15 et le chapitre 16, Saint Matthieu chapitre 6, Colossiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 5, Hébreux chapitre 11, Galates chapitre 5, et j'ai oublié de vous dire le Romains chapitre 6, chapitre 8, chapitre 12 et même le chapitre 14. Donc, beaucoup d'autres passages des Saintes Écritures vous aideront à demeurer en Christ. Et parmi eux sont mes versets favoris. Puis-je vous suggérer, chers amis, de prendre un carnet et de faire un plan de chacun de ces chapitres avec la liste des exhortations qui vous encouragent à demeurer en Christ. Continuez à utiliser vos carnets avec tous les versets que je viens de vous indiquer sur ce CD. Deuxièmement, prenez l'habitude de passer chaque jour un moment précis dans la prière. C'est absolument important. Troisièmement, passez un moment à lire et à étudier la Sainte Parole de Dieu chaque jour. Quatrièmement, n'attristez pas le Saint-Esprit, mais confessez vos habitudes de péché et détournez-vous d'elles. Dans la première épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 9, on nous dit « Si nous confessons nos péchés, mes péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si vous faites quelque chose de mal en le sachant et que vous ne le confessez pas, eh bien, bien sûr, vous comprendrez que vous, que nous attristons le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, que l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, il est attristé quand un chrétien commet des péchés. Ainsi, si vous désirez continuer à être rempli du Saint-Esprit, à savoir que vous avez vraiment reçu la plénitude du Saint-Esprit, à avoir la puissance dans votre témoignage pour Jésus-Christ et de vivre en quelque sorte des vies saintes, eh bien, nous devons pas tolérer les péchés dans notre vie. Et cinquièmement, n'étouffez pas le Saint-Esprit. Soyez sensible à la direction du Saint-Esprit, car il est omniscient. Il a une sagesse et une connaissance infinie, et il nous conduira dans toute la vérité, selon Romains chapitre 8, verset 14 à 16. Oui, chers amis, nous avons malgré tout fait demi-tour dans notre vie. Et c'est ce que raconte un pasteur qu'il a lui aussi avec sa femme. Un jour fait demi-tour quand l'Esprit Saint le lui a commandé. Voyez-vous, il a dit ceci, c'est son témoignage. Comme nous arrivons devant la porte d'un homme déjà d'un certain âge, le monsieur sortit pour nous accueillir. « Vous avez oublié quelque chose ?»« Ah oui, Je sais que cela vous paraîtra un peu étrange, mais voyez-vous, nous sommes des chrétiens. Et nous avons senti que le Seigneur voulait que nous revenions. Et ceci pour vous parler du Seigneur. Eh bien, voyez-vous, cet homme a été vraiment ému. Car tandis que, c'est ce que le pasteur dit dans son témoignage, tandis que je prononçais ces paroles, les larmes commencèrent à couler le long de ses joues et il nous dit que c'était en effet le Seigneur qui nous avait envoyés. Il nous invita donc à entrer chez lui et il a appelé sa femme et il a dit « J'allais autrefois à l'église, mais petit à petit, le péché a dominé sur ma vie et comment ? Et je n'ai plus du tout pu fréquenter un lieu de culte. Mais cette semaine, ma femme est allée à une réunion sous tente d'évangélisation. Et depuis là, je suis moi-même, chaque jour, davantage préoccupé par mon péché, car elle prie tous les jours pour moi. Et je veux être maintenant en règle avec Dieu. Et là, c'est ce que ce pasteur continue de dire, nous nous sommes agenouillés dans son salon, et lui et sa femme ont consacré leur vie et leur foyer à Christ. Nous sommes repartis, bénissons Dieu pour la direction du Saint-Esprit et pour cette nouvelle occasion de témoigner pour notre Sauveur. Voyez-vous, chers amis, dans ce cas de figure, cela était beaucoup plus important que simplement le parler en langue, qui est important. Mais vous avez compris que nous devons surtout être des témoins courageux, de témoigner et d'être conscients que des hommes sont en train de se perdre pour l'éternité. Et nous devons donc recevoir dans notre cœur et le demander que nous puissions aider partout pour que des âmes puissent être sauvées. Chers amis, lorsque vous demandez à Dieu de vous remplir de son Esprit Saint, vous commencez la plus grande aventure de votre vie. Souvenez-vous que vous demandez à être rempli du Saint-Esprit et non pas de vous-même. Et au fur et à mesure que le Saint-Esprit contrôle votre vie, vous deviendrez davantage semblable à Christ. Le Saint-Esprit n'est pas l'auteur de la confusion et des extrêmes dans vos sentiments. Pas du tout. Il est venu exalter et glorifier Jésus-Christ. Aussi, votre désir constant en recevant le Saint-Esprit sera de faire la volonté de Dieu et ce qui plaît à notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi croyez-vous que Jésus est-il venu en ce monde ? Mais il est venu pour chercher et pour sauver ce qui était perdu. Selon saint Matthieu chapitre 18, verset 11, ça devrait devenir notre désir. Qu'est-ce qui plaît le plus à notre Seigneur ? Que nous cherchions, croyez-moi, à accomplir le commandement de Christ en allant par tout le monde, en prêchant l'Évangile, en faisant de toutes les nations des disciples et en lui permettant de vivre sa vie par nous. Nous pouvons même chez nous, là où nous habitons, aller trouver des personnes qui sont à l'hôpital. Ce n'est pas défendu. Et quand le Saint-Esprit nous montre que nous pouvons témoigner, que nous pouvons parler du Seigneur, nous pouvons donner une brochure, un évangile. Il n'y a rien de plus merveilleux, de plus utile. Un évangile de Saint Jean, voyez-vous. Personne ne dira quelque chose là contre. Oui, qu'est-ce qui plaît le plus à notre Seigneur? Que nous cherchions à accomplir le commandement de Christ, c'est aller partout et de prêcher l'évangile, d'annoncer d'une manière ou d'une autre l'évangile, en faisant de toutes les nations des disciples et en lui permettant de vivre sa vie par nous. Et comment cela peut-il se faire? Simplement par la puissance du Saint-Esprit. Quel privilège, chers amis, d'être utilisés par notre Sauveur pour l'aider à atteindre un monde perdu avec la bonne nouvelle de l'amour et du pardon de Dieu. Comment oserions-nous pécher contre le Seigneur et ceux qui attendent ce message en hésitant un seul moment de faire notre devoir? Chers amis, demandez-lui au Seigneur maintenant la plénitude de son Esprit Saint. Et croyez-moi, il est fidèle et il vous donnera ce que vous demandez de tout votre cœur. Chers amis, nous allons terminer ensemble par la prière. Prions ensemble et vous pouvez répéter cette prière tranquillement, soit dans votre cœur ou à haute voix, comme vous voulez. Vous pouvez aussi réécouter des passages de ce CD, de ce message. Et croyez-moi, le Seigneur vous bénira. Il vous bénit déjà. Prions. Notre Seigneur et Sauveur, tu es pour nous comme la rosée du matin. Ta fraîcheur tombe sur nous partout. Ô, élève notre âme vers des choses plus hautes et élève notre pensée vers ton désir. Accorde-nous la foi qui prend son vol. Donne-nous l'amour qui consume comme le feu, l'amour qui mène au calvaire, pas seulement égoïstement pour nous, puisque tu nous as fait le don du Saint-Esprit, et ceci pas seulement pour parler en d'autres langues, mais pour que nous soyons plus que jamais conscients que nous avons maintenant un devoir impératif pour que des âmes soient sauvées. Nous savons que nous devrons un jour rendre des comptes si nous avons seulement été des disciples virtuels. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour incommensurable de nous avoir accepté de pouvoir être cohéritiers dans ton royaume pour l'éternité. Amen. Et chers amis, merci pour toute la patience, pour tout l'intérêt que vous portez à ces études. Nous allons commencer une nouvelle série et merci que vous puissiez grandir, vous affermir dans la sainte parole de Dieu. Et n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Et soyez donc bénis. Et encore, merci. Au revoir, mes très chers amis. Au revoir.